Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Seigneur notre Dieu, bientôt ce sera pour nous cette réalité de la résurrection, de la vie éternelle avec Jésus glorifié et nous semblables à lui par ta grâce. Merci Seigneur ce matin encore de pouvoir partager ce repas que nous allons faire jusqu'à ce que tu viennes. Et tu nous dis d'être vigilants, de veiller jusqu'à ce que tu viennes. Merci pour ce matin, bénis-le abondamment. Amen.
Ce matin, le Seigneur nous invite, une fois de plus, on a ce privilège de pouvoir partager ensemble le repas du Seigneur. Et on va ouvrir nos Bibles dans Romains 5, on verra juste les versets 18 à 21, Romains 5, 18 à 21, pour introduire ce moment. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. D'un côté, l'offense, la séparation d'avec Dieu, pour tous les hommes, de tous les temps, et de l'autre côté, l'espoir et la réconciliation d'avec Dieu. Une séparation qui nous conduit à vivre dans ce monde sans espérance, comme dit la parole, et avec la crainte de la mort, la crainte du jugement de Dieu. Et puis en face, donc l'acte de justice qui apporte la réconciliation et la paix avec Dieu. On remarque dans ce verset que par deux fois, il y a l'expression « tous les hommes ». La condamnation atteint tous les hommes, et par un seul acte de justice, la vie s'étend à tous les hommes. Mais elle ne se réfère pas forcément aux mêmes hommes. La première expression se réfère à tous les descendants d'Adam, donc toute l'humanité, à nous sans exception. Et la deuxième expression se rapporte à ceux qui sont en Jésus-Christ, selon ce que dit le verset 17, qui est juste avant. « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, et qui régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Ceux qui reçoivent l'abondance de cette grâce sont tous les hommes dont il est question au verset 18. Ensuite, l'apôtre y va au cœur du problème, et il aborde la désobéissance de l'homme et l'obéissance de Christ. Alors peut-être, si Adam avait eu conscience des conséquences de sa désobéissance, peut-être aurait-il été plus soucieux d'écouter, d'obéir à son Créateur. Et bien que l'homme ait choisi librement de se détourner de Dieu, et bien Christ, lui, a choisi aussi librement la soumission à la volonté de Dieu, ce qui l'a conduit, comme l'avait annoncé Isaïe, à la mort de la croix. Il a été blessé, Isaïe 53, verset 5, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et combien ce verset 19 devrait nous conduire à veiller sur nos pas, notre obéissance ou notre désobéissance au commandement du Seigneur ont des conséquences pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et ce n'est pas en vain que Pierre nous donne cette exhortation, 1 Pierre 2, 21, « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Et l'apôtre va ensuite conclure ce beau chapitre 5 des Romains par les versets 20 et 21 qui nous disent « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et là, il nous a rappelé que la grâce de Dieu est plus grande que tous les péchés des hommes et que la grâce règne par la justice. Ça signifie que toutes les exigences de Dieu, de sa sainteté, ont été satisfaites et que chacun d'entre nous peut librement s'approcher de Dieu en s'appuyant notamment sur les mérites du Seigneur et devenir membre par la foi des enfants de Dieu, membre de la maison de Dieu. Et ça, c'est un grand privilège qu'il nous faut rappeler chaque semaine. Le salut, la vie nouvelle, une pleine restauration offerte à chacun. Dans son commentaire du disciple, MacDonald résume conclut ce chapitre de cette façon. Pourquoi Dieu a-t-il permis au péché d'entrer dans le monde ? Grâce au sacrifice de Christ, Dieu a reçu davantage de gloire et l'homme davantage de bénédiction que si les péchés n'étaient jamais intervenus. En Christ, nous sommes bien mieux lotis que si nous étions restés en Adam, même non déchus. Si Adam n'avait jamais péché, il aurait certes continué à jouir de la vie sur terre, mais il n'aurait jamais eu la possibilité de devenir un enfant de Dieu, racheté, héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ. Il n'aurait jamais eu la promesse d'une demeure dans le ciel, ni d'être avec Christ et d'être semblable à lui pour l'éternité. Ces bénédictions nous appartiennent seulement par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors bien sûr, ces réflexions, bien loin de nous conduire à minimiser les conséquences du péché et sa gravité, au contraire, nous poussent à mettre notre vie en accord avec ce que dit le verset 6, Paul qui poursuit, verset 1 du chapitre 6, et qui nous dit « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Et on va conclure avec les versets 22 et 23 de ce même chapitre 6. « Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors, remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite, lui d'obéir alors que nous étions désobéissants, de nous apporter la vie, une vie nouvelle, offerte à chacun, à tous les hommes. Seigneur, nous voulons ce matin, une fois de plus, te dire merci. Parce que si nous sommes désobéissants, toi, tu as accepté d'obéir en toutes choses à ton Père jusqu'à la mort de la croix. Et tu nous as offert la vie, une vie pleine, entière, la réconciliation avec Dieu. Et nous voulons te dire, Seigneur, notre reconnaissance, te remercier ce matin pour cela. Amen.
Alors ce matin, on va prendre un passage dans le livre des Actes, au chapitre 16, les versets 22 à 35. Acte 16, à partir du verset 22. Donc Paul et Silas sont à Philippe, et ils ont délivré une femme qui était possédée d'un esprit de Python, et dont donc cette esclave, à qui elle appartenait, gagnait pas mal d'argent à cause d'elle. Et puis donc elle a été délivrée, et à partir du verset 22, la foule se souleva aussi contre eux, contre Paul et Silas, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur,
Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire au geôlier : Relâche ces hommes. Alors on va parler de ce geôlier dans la prison de Philippe.
Voilà un homme qui assiste à un miracle, au moins un de miracle.
Les liens des prisonniers sont rompus, les portes de la prison s'ouvrent, il y a un grand tremblement de terre. Il est prêt à se suicider. Il pense que les occupants de la prison sont tous partis. On peut comprendre devant ces événements qu'ils se sont responsables de cette fuite possible des prisonniers et que devant la punition qu'il attend de la part de ses supérieurs, il préfère se donner la mort. Ce pourrait être une explication logique si on n'avait pas la suite. Les versets 28 à 30, je vous le lis. « Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Eh bien, voilà un homme qui vient tout tremblant d'effroi se jeter aux pieds de Paul et de Silas en demandant comment faire pour être sauvé. Imaginez cette scène. Cet homme qui vient de jeter ces deux chrétiens en prison, les jeter. Il leur a mis les cèpes aux pieds. Que risque-t-il de leur part pour avoir une conviction d'être perdu ? Et leur demander le chemin du salut en les appelant « Seigneur ». La raison est simple. Ce n'est pas les miracles qui l'ont impressionné. C'est la révélation qu'il a eue d'être perdu. Comme nous, nous avons eu de la part du Seigneur cette conviction d'être des pécheurs, d'être perdus à tout jamais. C'est une révélation, non pas de Paul, ni de Silas, mais du Dieu vivant qui lui a donné cette conviction. Mais encore, faut-il pour cela, pour avoir cette conviction de péché, il faut avoir le sentiment d'être coupable. Et pour se sentir coupable, il faut avoir une mauvaise conscience. Avant d'avoir une mauvaise conscience, il faut avoir une conscience. C'est tout simple. Là, on parle de la conscience du bien et du mal. Alors voilà la définition de l'Académie française. Capacité de distinguer le bien et le mal, sentiment intime par lequel l'homme se rend témoignage à lui-même de ce qu'il fait de bon ou de mauvais. Puis ensuite, il est dit que c'est quelque chose de subjectif dont les gens du CNRS nous disent que les interprétations philosophiques et religieuses échappent au champ de la science. Impossible d'expliquer. Avoir bonne ou mauvaise conscience, ça commence là. Mais par rapport à qui ? Ou par rapport à quoi ? Par rapport aux lois humaines, à l'origine, elles sont fondées sur la base des commandements institués par Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu est pur. Il est parfait, il est saint, et que l'homme est corrompu, perverti. L'esprit du monde est inimitié contre Dieu. Je vous lis Romains 3, 10-18, qui reprend les termes du psaume 14. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. On peut mettre « je » à la place. J'ai sous mes lèvres un venin d'aspi, ma bouche est pleine de malédiction et d'amertume. J'ai le pied léger pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur ma route. Je ne connais pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant mes yeux. Du moins, n'était pas. Et les conséquences, au chapitre 1 des Romains, au verset 28 à 32, on peut le lire ensemble. Romains, chapitre 1, verset 28 à 32. Et là encore, on peut mettre « je » à la place. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Voilà un constat effroyable et qui s'applique tout à fait à notre temps, qui s'applique à la nature de l'homme, à la mienne. Devant un tel constat, comment peut-on avoir une bonne conscience devant Dieu ? Il est impossible à l'homme naturel de satisfaire aux exigences de son Dieu. Alors il y a deux possibilités. Soit celle qu'adopte l'homme dans sa nature, se détourner de son Dieu, comme les pharisiens devant la femme adultère, cette femme qui a péché, qui est mise devant le Seigneur Jésus, et ces hommes qui disent « il faut la lapider ». Je vous lis le chapitre 8 de l'évangile de Jean, les versets 7 à 9. Mais Jean 8, si vous voulez, versets 7 à 9. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, donc les scribes et les pharisiens, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Voilà, ils se détournent, mauvaise conscience, et ils partent. Et dans la foulée, qu'est-ce qui va se passer ? Avec cette nature-là, on va cautériser sa conscience en adaptant les lois en fonction de la dégradation des mœurs, en appelant le bien mal et le mal bien, en rejetant tous les commandements institués par Dieu lui-même. Et on en voit les conséquences aujourd'hui. La deuxième solution, c'est de se reconnaître comme pécheur et implorer le pardon de Dieu. Pas d'autre possibilité. La nature humaine est incapable de se procurer une bonne conscience face au Dieu saint. Demandez au jeune homme riche. Vous pouvez lire chez vous Marc 10, 17 à 22. Ce jeune homme qui vient en disant finalement, je suis bien, je suis présentable. Il vient pour ça, en fait, pour que le Seigneur dise oui, finalement, t'es bien, t'es juste. Eh non. Vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va partir tout content. Il va repartir tout triste, complètement avec la certitude que ce sera l'enfer pour lui. Mais il préfère garder ses biens temporaires au lieu de suivre Jésus, d'aller plus loin avec lui. Et combien aujourd'hui font ce choix ? La conviction de péché donne à l'homme une mauvaise conscience devant les lois de Dieu, devant ses commandements, mais surtout elle donne la conviction d'être perdu devant la perfection de Dieu, d'être un pécheur misérable. Le pardon, lui, est lié à la conviction de péché. L'apôtre Paul a pu dire dans Romains 7, 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais ça ne suffit pas d'avoir une conviction de péché, d'être perdu, de dire « misérable que je suis ». Ça ne délivre pas de ma nature. Ça ne me justifie en rien. Je ne suis pas dédouané pour autant. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, nous dit Hébreux 10 au verset 31. Et sans pardon, avec une mauvaise conscience permanente, c'est impossible de tenir l'angoisse, la crainte et le lot de celui qui est dans cet état. Mais il y a un mais. Notre Dieu a pourvu à tout. Il a trouvé un substitut. C'est pourquoi il me faut rencontrer celui qui est capable de me pardonner et de m'ôter ce poids terrible du péché. Et c'est ça le miracle. Croire que le Seigneur Jésus a accepté le prix de la rançon sans laquelle j'étais condamné. Croire qu'il a été fait péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et on va lire, ou je vais le lire, Hébreux 9, ces versets que nous connaissons bien, les versets 13 et 14 de Hébreux 9. Hébreux 9, 13, 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et Hébreux, au chapitre suivant, Hébreux 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a augurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il a fallu, pour être pardonné et retrouver une relation vivante entre l'homme et son Dieu, que Dieu pardonne, qu'il en ait le désir, et il l'a prouvé, en donnant son Fils unique, la seule façon d'avoir une bonne conscience envers Dieu, c'est la foi réelle, sincère. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans son chapitre 1, au verset 5, le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et toujours dans le même chapitre, de 1 Timothée 1, au verset 18 et 19, je vous le lis. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est pour ça qu'il dit qu'il s'efforce d'avoir une bonne conscience envers Dieu. Et le pardon, ben c'est quoi? C'est la manifestation de l'amour de notre Dieu et de l'amour de Jésus. Le pardon, c'est le fruit de l'amour. Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais pour que ce soit possible, il a fallu que le Père mette le prix, et un prix très élevé. Le prix du pardon, c'est Jésus lui-même. C'est son sacrifice. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, nous dit Hébreux 9, 22. Alors pour être pardonné, pas d'autre solution. Je dois, il me faut m'humilier, me repentir. C'est la nécessité absolue. Le pardon, c'est Jésus. C'est lui, la source de toute grâce. C'est par son sang que mes péchés sont couverts, que je suis justifié. Vous vous rendez compte que chacun, le Père, en Christ, nous voit juste, pur. Et la conviction de péché amène, en fait, ça nous a été rappelé tout à l'heure, à découvrir jusqu'où va l'amour du Seigneur pour moi et pour toi. On va prendre un passage dans l'Évangile de Luc, au verset 36 à 48, pour voir ce lien entre l'amour et le pardon. Luc 7, versets 36 à 38. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. « Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et elle dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. C'est un verset qui m'a été donné ce matin, ce passage. Et j'étais bouleversé par ce passage. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Quelle est l'importance de mon amour, la grandeur de mon amour pour le Seigneur Jésus? Il est en fait proportionnel au pardon que j'ai obtenu. Et ce pardon, il était d'un très grand prix. Et j'ai pu voir que parfois, je m'habitue au pardon. Mais c'est pas quelque chose de... C'est un miracle à chaque fois. Et chaque fois, parce qu'à chaque fois que je pèche devant le Seigneur, on n'a pas perdu notre salut, c'est sûr. Mais à chaque péché, je me prive de cette relation intime avec lui. La parole nous dit dans la première de Jean, au chapitre 1 et au verset 10, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Quand est-ce que tu as, que j'ai, demandé pardon au Seigneur la dernière fois? Le pardon, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Il nécessite d'accepter d'être vu comme je suis réellement vu par mon Seigneur. C'est encore pire que je ne le pense, en fait. Parce que lui, il me voit tel que je suis. Sans aucune... Il n'y a pas de filtre. Mais il me suffit d'accepter sa grâce. Romains 7, verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et au chapitre suivant, au verset 1, « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Quelle merveille, quel miracle pour chacun d'entre nous d'être pardonné, purifié par le sang du Seigneur Jésus, entièrement. Maintenant, si nous sommes pardonnés, le Seigneur nous dit aussi dans Matthieu, au chapitre 6, versets 14 et 15, on peut le prendre tous ensemble, et puis j'ai besoin de le graver dans mon cœur, ça. Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais au fait, ça veut dire quoi pardonner? Étymologiquement, pardonner vient du latin perdonare. Ça veut dire donner complètement, complètement. Faire grâce. Et ce mot, il faut le voir selon la vision de notre Dieu. Et il ne s'agit pas de limiter à la vue humaine. Souvent, vous savez, quand vous bousculez quelqu'un, on dit pardon. Ou bien on entend souvent ce mot ou cette phrase, il faut pardonner, mais surtout, il ne faut pas oublier. C'est totalement à l'encontre de ce que dit le Seigneur. Je vous lis, on peut le lire là encore, Michée, chapitre 7, versets 18 et 19. Michée, Nahum, Habakkuk, je vais vous les lire. Hein. Michée 7, 18 et 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Il oublie les péchés et puis il les met au fond de la mer. C'est profond la mer, hein. On ne peut pas aller les rechercher. Notre Dieu ne s'est pas tenu à notre conception. En pardonnant, il dit qu'il oublie. C'est lui qui dit ça, ce qui semble complètement impossible. Mais le pardon, c'est ça. Et nous rappelons tellement souvent ce verset de Philippiens 2, 5, « Ayez en vous ». Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors tout d'abord, est-ce que je suis prêt à vraiment pardonner lorsque j'étais offensé? C'est-à-dire à oublier l'offense, quelle qu'elle soit, même si elle se répète. Matthieu 18, versets 20 et 21, je vous les lis. « Alors, Pierre s'approcha de lui, du Seigneur, et lui dit, « Seigneur, Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Ça fait 539. Ça veut dire qu'à la 540e, c'est fini ? Bien sûr que non. Ça veut dire indéfiniment. Pardonner indéfiniment. Et pardonner, c'est oublier. Si on m'offense plusieurs fois, ce doit être comme si c'était à chaque fois la première fois. Fini les réflexions du type « Oh ben il a un sale caractère, il est comme ça, hein. On va faire avec. » Mais c'est ce que ça ne nous arrive pas. Moi, ça m'arrive. Il ne va pas changer. Proverbe 17, verset 9. « Celui qui couvre une faute cherche l'amour. » Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. C'est clair. Je lui pardonne, mais tout de même, quelle ingratitude de sa part. Après tout ce que j'ai fait pour lui, ça t'arrive jamais de dire ça, moi aussi, ou de le penser. Mais dans cette pensée, qu'est-ce qu'on met en valeur ? Qui met-on en valeur ? C'est moi, tout ce que j'ai fait pour lui. Oh non, il n'a pas pensé quand même à tout ça. Le Seigneur va plus loin. Il dit dans Matthieu 5, versets 44 et 45, Matthieu 5, versets 44 et 45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est incroyable, ça. Aimer ses ennemis, bénissez ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous haïssent, et prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Est-ce que c'est possible ? C'est impossible. Ça demande, si on... Vous voyez, en face de votre ennemi, de quelqu'un qui vous veut du mal, de lui dire « je t'aime ». Mais c'est ce que le Seigneur a fait envers chacun d'entre nous. C'est avant tout le désir d'oublier ce qu'il m'a fait pour pouvoir le bénir, aimer vos ennemis. Et c'est ce que le Seigneur a fait en mourant sur la croix pour moi. Je suis personnellement dans l'impossibilité de le faire. Il m'arrive encore de prier pour des personnes contre lesquelles j'ai des griefs dans le fond de mon cœur. Comment voulez-vous que je sois exaucé ? C'est impossible. Le Seigneur veut me libérer de cette capacité à juger, à ôter la paille qui est dans l'œil de mon voisin alors qu'il y a une poutre dans le mien. Hébreux 12, versets 14 et 15, je vous le lis, ce que le Seigneur nous dit par la bouche de celui qui a écrit la lettre aux Hébreux. Hébreux 12, 14, 15. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est clair. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Elle est à notre portée. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez. Si l'auteur de cette lettre nous exhorte ainsi, c'est qu'il y a réellement un risque, qu'il faut être vigilant. Pour que cela soit possible, il faut éradiquer celui dont nous avons lu dans Romains 3, qu'il n'est ni juste, ni intelligent, qu'il ne cherche pas Dieu, qu'il est égaré et perverti, qu'il ne fait pas le bien. En fait, moi. Le moi, c'est ça. Et il doit être éradiqué. Mais en Jésus-Christ, les choses sont tout autres. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Tout ce qui est passé, il n'y en a plus, pour que Christ soit là. Puis il y a encore une question qu'on peut se poser, pour que je pardonne à quelqu'un, il faut qu'il me demande pardon. Logiquement, est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un qui ne demande pas pardon ? Ou quelqu'un qui fait le mal sans véritablement avoir conscience de la portée de sa faute ? Il m'a fallu demander pardon à mon Dieu pour pouvoir être pardonné. Donc celui qui m'a offensé, il doit aussi me demander pardon. C'est nécessaire. Si quelqu'un vis-à-vis de moi se trouve dans une position de coupable, doit-il me demander pardon ? C'est ce que le Seigneur a fait ? le Seigneur Jésus, sur la croix, a pu dire en parlant de ses bourreaux, de ceux qu'il avait crucifiés, de ceux qu'il avait torturés, Luc 23 au verset 34, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » De même qu'Étienne, devant ceux qui le lapidaient, il a dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Ils ont, parce que Étienne était en Christ, et Christ n'attend pas de pardonner. Il n'attend pas que je lui demande pardon pour être pardonné. Moi, je dois le faire, c'est mon lot. Mais lui, il a tout pardonné déjà à ceux qui le maltraitaient. Alors, pas d'équivoque. Je dois pardonner avant toute chose. Sinon, c'est une racine d'amertume qui va produire ses rejetons. Et ces rejetons, c'est quoi ? C'est la haine, c'est la mauvaise conscience, c'est l'angoisse, c'est la colère. On ne peut pas être en paix quand on a ces rejetons en nous. Proverbe 10-12, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Et 1 Corinthiens 13, verset 7, l'amour excuse tout. Pas besoin de demander pardon, là. L'amour excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour, on l'a dit, est lié au pardon. Ils sont indissociables. L'amour, le vrai, engendre le pardon total, l'oubli. 1 Pierre 4, 8, et avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et puis enfin, pour terminer, si on en revient à notre texte du début, quand on voit ce geôlier dans la prison, demandez au geôlier de Philippe s'il n'a pas été travaillé par le comportement de Paul et de Silas, qui, jetés en prison, laissaient paupiers, se plaignaient de leur sort, pleuraient leurs tristes conditions et demandaient la punition des responsables de leur emprisonnement. Ben, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils voient ? Ils prient et ils chantent des cantiques. Là encore, c'est un miracle. Des cantiques à la louange de leur Dieu, c'est écrit comme ça. Quand ils se jettent à leurs pieds, l'ont-ils repoussé ? Encore moins. Paul et Silas lui présentent le salut. Et peut-être, probablement même, ont-ils prié pour ce geôlier, pour ceux qui les persécutaient. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et là, ce geôlier, vous avez ce miracle, il allait se suicider. Et là, il les emmène chez lui, peu importe ce qui va lui arriver, il les emmène chez lui, il les soigne. Puis après, il les ramène dans la prison. Ça, c'est tout ce passage est un véritable miracle, sur toute sa, dans son intégralité. Puis Ananias, ce disciple, à qui le Seigneur apparaît pour l'envoyer vers ce Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Acte 9, verset 17, je vous le lis. Après que le Seigneur lui ait parlé, il l'envoie vers Saul de Tarse. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue » et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Saul, mon frère. L'amour est manifesté. Il n'y a aucun reproche à ce Saul de Tarse, ce persécuteur qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, quand même. À la place d'Ananias, qu'est-ce que j'aurais fait ? Quand même, tu vas peut-être quand même demander pardon. Demander pardon aux chrétiens ? Non, il n'y a pas un seul mot. Saul, mon frère. Voilà jusqu'où va le pardon. Alors, le pardon, dans les deux sens, c'est-à-dire pardonner et être pardonné, c'est une histoire personnelle. Ce n'est pas quelque chose de collectif. Et puis, même si on croit que c'est impossible, il nous est dit que rien n'est impossible à Dieu. Si je suis animé des sentiments du Seigneur Jésus, alors je pourrai pardonner, comme j'ai été pardonné. Puis on va voir le fruit du pardon, pour terminer, deux simples versets dans le psaume 32. Les deux premiers versets, simplement. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux. Est-ce que vous êtes heureux ce matin d'avoir été pardonné ? Je pense que oui. Mais qu'on remette cela devant nos yeux, le privilège qu'on a d'avoir eu un Seigneur qui s'est révélé à notre cœur, de nous avoir révélé notre péché, mais pour nous emmener sur un autre terrain, celui du pardon, de la grâce, et de nous rendre capables d'être des témoins et de pardonner à tous ceux qui sont autour de nous, d'être rendus capables. C'est impossible, personnellement, par nos propres capacités, mais lui veut le faire, et puis nous rendre heureux. Le témoignage de Paul et de Silas d'Ananias, il a porté ses fruits, hein. Alors, Seigneur attend aussi qu'on porte les siens. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin.
Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci d'avoir pu, par ta grâce, élever nos cœurs à toi, pour te dire toute la reconnaissance de nos cœurs, de ce que tu nous as appelé, que tu nous as éclairé et convaincu de péché, et que tu nous as pardonné. Oui, Seigneur, heureux l'homme à qui les péchés sont remis. Oui, Seigneur, nous te remercions de cette joie que nous avons de faire partie de ces heureux, non par nous-mêmes, Seigneur, mais par ta grâce, tout simplement. Parce que tu as attiré nos cœurs à toi et tu nous as appris à t'obéir, tout simplement, mais véritablement, selon ta parole et selon ton esprit qui nous secourt. Car tu pries pour nous, tu pries pour l'Église. Nous disons merci, Seigneur, donc, de ce que nous avons vécu maintenant, Seigneur, que ta parole nous exhorte à demeurer fidèles à toi. Te remettons, Seigneur, chacun de ceux qui ne sont pas là, nos frères et sœurs, et aussi tous nos frères et sœurs, Seigneur, il n'y a pas que seulement ici, mais il y a aussi dans le monde entier, Seigneur, que tu connais, qui sont les noms inscrits sur ton livre de vie. Eh bien, Seigneur, nous te prions de soutenir, de porter, de fortifier la foi de chacun, et de aussi fortifier la foi et de protéger tous ceux qui sont persécutés dans ce monde, Seigneur, parce qu'ils ont choisi d'obéir à ta parole, parce qu'ils ont rencontré le Fils de Dieu. Oui, Seigneur, tu prends soin de tes enfants, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. Te disons merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.